RTS Info, Christine Mattei.
La Suisse soutient le plan en trois phases du président Joe Biden pour un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages détenus à Gaza, l'aide humanitaire et un chemin vers une fin permanente des hostilités. Réaction cet après-midi du département fédéral des affaires étrangères. Le président américain Joe Biden a présenté hier une proposition de cessez-le-feu dans la guerre du Gaza. Le plan en trois phases prévoit un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a jugé tard hier soir la nouvelle proposition positive. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, assure aujourd'hui le Premier ministre de son soutien à la feuille de route pour la libération d'otages. Ce plan avait précédemment été refusé par les partenaires d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. Le gouvernement israélien ne peut pas ignorer le discours important du président Biden, écrit le centriste Yair Lapid. Les bureaux de vote ont fermé ce samedi en Inde. C'est la fin d'un long processus de 6 semaines d'élections générales, dont le Premier ministre Narendra Modi devrait sortir vainqueur. Le dépouillement est prévu mardi. Le cap des 5 millions de spectateurs a été franchi en seulement un mois d'exploitation. Grand succès populaire pour le film français Un petit truc en plus, la comédie d'Artus portée par des acteurs en situation de handicap qui s'impose comme le plus gros succès du cinéma français depuis la crise Covid. Père et fils à l'écran, Clovis Cornillac et Artus y incarnent deux petits malfrats qui se cachent au milieu d'une colonie de vacances pour jeunes porteurs d'un handicap mental afin d'échapper à la police. Une rave party non autorisée a été découverte par les services de police sur le territoire de la commune de Corberier-Hongrain, au-dessus de Villeneuve. Des barrages de police bloquent l'accès et invitent les fêtards à renoncer à s'y rendre. Les routes depuis la Lécherette ainsi que Corberier et Yvonne sont coupées pour empêcher de nouveaux amateurs de se rendre à cette fête illégale, précise la police. En moto GP, le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia sur Ducati a remporté la course sprint du GP d'Italie, alors que le leader au championnat, l'Espagnol Jorge Martin, a chuté. Les porteurs du projet Midnight Trains, qui visait à lancer des trains de nuit confortables depuis la France, renoncent faute de capacité financière. En l'absence de soutien des pouvoirs publics, cette nouvelle compagnie ferroviaire privée souhaitait lancer des trains de nuit qui auraient relié Paris à des grandes villes européennes, avec une première liaison test Paris-Milan-Venise. La météo, quelques averses isolées cet après-midi sur le Jura, les Préalpes et l'Est du plateau romand. Le temps sinon est généralement resté sec dans les autres régions. Demain, pas de grands changements, quelques faibles précipitations, mais aussi des éclaircies, surtout en Valais. Patience, on retrouvera le beau temps et la douceur mercredi après 2 journées de transition.
Un certain monsieur Mickey.
Alors, on a connu un monsieur Mickey.
Ahmed Mickey.
Monsieur Mickey.
C'était un Algérien.
C'est un petit bonhomme avec des petites moustaches fines là.
C'est l'histoire d'une valise oubliée et le récit de celles et ceux qui ont connu et partagé la vie de son propriétaire. Et c'est en creux le portrait d'un exilé raconté par la réalisatrice Mathilde Billot.
C'est une mine d'or cette valise. Moi quand je l'ai ouverte, j'ai dit non, ça c'est pas possible, il faut le garder, c'est un patrimoine.
La valise de Monsieur Mickey, un documentaire sonore produit par Le Labo, à découvrir ce dimanche à 20h sur RTS La Première et à réécouter également sur l'application Play RTS.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Télévision Suisse.
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Nous sommes là pour vous accompagner, on continue tant que l'on peut cet engagement pour la culture francophone afin de mettre en lumière les auteurs et artistes comme nous le faisons avec vous depuis 19 saisons. De la musique, de la poésie, de la douceur et des paroles humanistes dont nous avons tant besoin actuellement. Voici le sommaire de ce nouveau voyage francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous sommes avec l'auteur et artiste Clara Isée qui publie son premier recueil de poèmes après un roman remarqué en 2021 et un album magnifique qui connaît actuellement un grand succès populaire. Elle jouera tout à l'heure un titre de cet album d'ailleurs dans une version acoustique à ne pas manquer. L'écrivain suisse Julien Burry est aussi sur notre plateau pour un court roman qui raconte la fin d'une relation amoureuse dans une douceur et une délicatesse régénérante, une pépite littéraire. Et puis nous irons au Québec en pleine nature, dans une érablière avec la romancière Fanny Britt, dont le roman vient de sortir en poche chez J'ai lu. Un accès à tous les lecteurs qui nous réjouit après avoir contribué à la révéler au public francophone en 2015 dans cette émission. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est le premier salon du livre de Granby au Québec. Bonjour Simon Boulris.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes auteur, metteur en scène, poète et comédien, entre autres. Vous êtes aussi le porte-parole de ce salon organisé pour la première fois à Granby. Pouvez-vous situer Granby pour nos auditeurs francophones, Simon?
Oui, bien sûr. Alors, c'est en Estrie. Donc, c'est un petit peu dans l'Est au Québec. Et il y a un zoo qui est très, très connu là-bas, le zoo de Granby. Oui. Donc, c'est assez connu au Québec.
Très bien. C'est un salon qui va être très accessible aux familles et à la jeunesse. Quand on regarde le programme, on s'aperçoit qu'il y a des événements inattendus, dans la rue notamment. Vous allez jusque-là?
Oui, il va y avoir en fait plusieurs événements tout autour de ce qu'on appelle, c'est un centre Notre-Dame, c'est une église qui a été convertie pour faire une salle des fêtes. Et autour, il y aura donc des spectacles jeunesse, des conférences, beaucoup, beaucoup d'animations, des activités littéraires. Il y aura même le matin des histoires en pyjama. Donc, ça rallie beaucoup autant les jeunes que les parents.
En pyjama, obligatoirement, on peut pas être en caleçon si on dort à moitié nu, du coup.
Idéalement, je vous invite à aller en flanalette, ce qu'on appelle la flanalette.
Ou en coton ouaté, en fait, ça marche aussi.
Ça marche aussi, ça marche absolument. Aussi. C'est ce que je porte toujours.
Bon, c'est vrai que vous aimez beaucoup hein, le contact avec le public, Simon Boulris. On vous a vu de nombreuses fois dans des salons avec ce contact très chaleureux que vous entretenez avec le public. Vous avez vous-même beaucoup écrit pour la jeunesse. Donc, c'est important pour vous d'être le porte-parole d'un événement qui s'adresse à la jeunesse et qui s'adresse à un public très large.
Bien, je considère qu'un salon du livre, c'est une célébration du livre et le plus tôt on peut aller cueillir l'enfant et l'amener à devenir un lecteur, je pense qu'on peut devenir un lecteur pour la vie dès qu'on a la piqûre très, très jeune et peu importe c'est quoi la porte d'entrée. Moi, ça a été des Archies, donc c'était des BD qui étaient très légères et très humoristiques, mais après ça, j'ai découvert la littérature québécoise et ça a été un tremplin pour moi. Et donc, quand je me déplace dans les écoles pour donner des conférences, j'ai l'impression que ça peut faire des bougies d'allumage dans certains cas. Et un salon du livre, ben c'est ça, parce qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui sont autour de nous et qui peuvent peut-être contaminer positivement les jeunes.
Mais comment fait-on pour les contaminer, justement, Simon Boulris? Quels sont les trucs? On leur dit, lisez ce que vous voulez, peu importe ce que vous lisez, par exemple?
Moi, je crois que c'est dans la variété. C'est dans quand on propose une diversité de livres variés, autant dans les genres que dans la forme. Donc, de faire des livres qui sont accessibles, qui sont beaux, qui leur parlent, sur des sujets qui les préoccupent. Je pense qu'il faut être toujours à hauteur d'enfant. Donc, moi, j'essaie toujours, quand j'écris, de me connecter à l'enfant que j'ai été. J'aime dire que j'ai l'enfance à fleur de peau, donc je gratte pas très loin. Je suis sincère par rapport à ce que j'ai été, mais j'essaie tout de même d'être dans le ici-maintenant et de m'intéresser à ce que vivent présentement les jeunes, c'est quoi leurs préoccupations et c'est quoi leur drame ordinaire. Parce que c'est pas toujours des tragédies, mais un drame ordinaire peut ressembler à une tragédie quand t'es enfant.
Merci beaucoup Simon Boulris. Le premier festival du livre de Granby se tient tout le week-end au centre Notre-Dame à Granby. Donc, on vous souhaite beaucoup de réussite pour ce festival, Simon. Et sachez que j'ai été très heureux de vous suivre toutes ces années passées dans la librairie francophone. On garde de vous un merveilleux souvenir. À bientôt. Merci Simon.
C'est un grand plaisir Emmanuel. Merci beaucoup à toi.
Merci. Voici nos libraires. Quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France, libraire à Orléans dans la librairie Les Temps Modernes. Petit problème de connexion avec vous que l'on va régler bien sûr. Au Québec, c'est Josiane Letourneau de la librairie Pauline à Montréal qui est là. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Ça va très bien, il fait beau, les oiseaux chantent. Ouais. Je les entends pas, mais les oiseaux chantent,
On parlera des oiseaux avec Clara Isée tout à l'heure, il y a plein d'oiseaux dans son recueil de poésie. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, vous êtes libraire à Genève, toujours dans la librairie Atmosphère.
Et
Et oui.
Bonjour la Belgique, bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire, vous, à Bruxelles, dans la librairie du Théâtre Le Public.
Oui.
Merci d'être avec nous, fidèles au poste, tous les quatre, malgré ces conditions difficiles. On part tout de suite dans l'univers musical de Clara Isée.
Retentit minuit, brûlons nos lits, et entrons dans la danse. Génération qu'on oublie, il est temps de sortir de l'errance. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Le feu nous éblouit, car cette nuit, notre vision est grande. Sens-tu venir? Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner.
Bonjour Clara Isée.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Sur ce titre Pyromane, extrait de votre premier album. Les auditeurs connaissent bien votre musique, mais vous êtes aussi l'autrice d'un roman paru en 2021. Vous venez donc de publier un recueil de poésie. Vous écrivez des poèmes depuis l'enfance, il paraît.
Oui. Ouais, j'ai commencé très jeune à écrire. Peut-être que j'ai même commencé avant de savoir que ça s'appelait de la poésie. Mais c'est vrai qu'enfant, je crois que je mettais ça du côté de la musique. Comme j'ai commencé la musique très jeune, je pense que c'était une manière pour moi de faire de la musique dans la langue.
Un premier territoire de liberté, dites-vous.
Absolument.
Ouais. Ça a commencé comme ça.
Ouais, ça a commencé comme ça.
L'écriture et la musique sont en symbiose et il semble que vous y trouviez un côté cathartique. C'est l'intensité des sentiments qui vous fait écrire ?
Oui, c'est vrai. Et je pense aussi que ce qui m'a fait écrire plus jeune, c'était... Je crois que souvent, entre musiciens ou personnes qui aiment profondément la musique, on partage souvent le fait d'avoir été un jour ou l'autre trahi par la langue quotidienne et que du coup, on est venu se réfugier dans la musique qui était comme un lieu d'accueil, quoi. Et je crois que dans la poésie, pour moi, c'est pour ça que je mets la poésie du côté de la musique, c'est qu'il y a ce rapport-là, à travers les mots, de reconstruire une langue protégée,
ouais,
quoi.
Ouais. Vos poèmes sont assez sombres quand même, hein. Protégés aussi, mais mystérieux, plein de contrastes. Vous créez comme ça des ambiances. Il y a souvent des enfants, des oiseaux aussi, on le disait avec notre libraire tout à l'heure. Ce sont les porteurs de la liberté, les enfants et les oiseaux?
Je pense que... Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enfants, il y a aussi cette idée dans l'enfance qui est quand même le grand territoire pour moi de la mélancolie. Et il y a aussi cette idée d'une sensibilité à fleur de peau et peut-être d'une période de la vie où on parle plus facilement justement à tout ce qui est invisible. Je crois que les oiseaux parlent aux enfants, oui. Et je pense que les enfants...
Parlent aux oiseaux.
Parlent aux oiseaux et parlent pas seulement aux oiseaux, mais je pense qu'il y a une porosité dans l'enfance, je crois, très forte à tout ce qui n'est pas dit ou à tout ce qui déborde des corps malgré eux et à tout ce qui déborde des choses malgré les choses.
Parfois, vous écoutez cette petite voix, Clara Isée, qui vous dit « Fuis le monde ». J'entends le génie dans mon oreille qui prononce doucement le serment. « Fuis le monde, prends les lucioles dans ta poche et va de l'autre côté de la montagne. Pas cette montagne-là, va de l'autre côté de toutes les montagnes, de tous les mondes infinis. Fuis le monde, enfant de la peur, de la colère abyssale. Ravale les mots salis, lave-les à l'intérieur de toi comme les cailloux précieux de ta gloire. Fuis le monde, enfant des mille vents contraires. »
Oui.
C'est beau.
Merci beaucoup.
Non, c'est vrai. Et un peu plus loin, vous évoquez votre fureur de vivre, notre fureur de vivre, qui est justement en contraste avec cette incroyable fragilité.
Absolument. Bah, il y a cette idée, je crois que c'est pour ça que le recueil s'appelle Vivante. Je pense que ce qui irrigue le recueil et les textes, c'est cette idée que je crois profondément qu'on peut mourir à soi en étant vivant. À travers les poèmes, l'idée c'est de creuser ce qui nous rend plus intensément présents au monde et donc plus vivants, quoi.
Mais ceux qui ont fait l'expérience de l'écriture dans des moments de douleur et d'épreuve, comme vous, hein, comprendront que vos textes tentent de transformer la douleur en autre chose, de s'écarter justement de la mélancolie pour en faire quelque chose de positif, de lumineux.
Absolument. Après, c'est très personnel ou intime, mais je crois que moi, l'écriture et la musique me ramènent à l'endroit du désir. Et que l'endroit du désir, c'est pour moi l'endroit le plus juste et peut-être le plus intéressant de résilience, quoi. Parce que c'est pas une résilience au sens de d'abandonner quelque chose, c'est une résilience au sens de construire des nouveaux chemins pour être intensément présent à ce qui se passe, quoi.
À l'intérieur de vous.
Oui, et oui. Autour de soi, on espère.
Voler à l'intérieur de soi, à l'endroit où il y a le plus d'étoiles. Chercher dans le noir les mains des amis, ne pas les trouver, mais savoir qu'elles sont là.
Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur le coin de la terre.
Sur cette musique, le monde s'est dédoublé, l'un de vos titres, Clara Isée. C'est très touchant, c'est très émouvant hein, de faire un entretien avec vous, avec cette musique comme ça qui est derrière. Vos textes, votre voix, votre style me font souvent penser à Barbara. Il y a cette même force, ce même déchirement, je dirais.
Ben merci, ça me touche. Barbara, c'est évidemment une référence importante pour moi. D'abord parce que je crois que dans la chanson française, c'est quelqu'un qui arrive, je trouve, à rendre une justesse des émotions assez folle et que c'est quelque chose que je révère.
On va laisser la place à nos libraires, si vous voulez bien, Clara Isée.
Oui,
ils ont lu ce recueil de poésie. Avec le Canada, Josiane Étourneau, c'est à vous.
Alors je commence, moi, ouf. Vous parliez tout à l'heure de contraste. Alors d'emblée, oui, pour moi aussi, c'est une lecture qui est en fait tout en dualité, tout en contraste. C'est une poésie passionnée, intense, qui se promène entre les mondes, qui invoque les sorcières. Vous parliez des oiseaux, moi c'est les sorcières qui m'ont frappée. Vous contemplez la nature, vous l'observez, vous vous y reconnaissez. Je trouve que votre poésie, elle franchit les frontières, mais elle dépasse le réel sans jamais vraiment perdre pied. Bref, de ma lecture, je retiens les envolées, tout autant que l'espoir évoqué d'une maison blanche, de la paix et du silence.
C'est joliment dit.
Merci.
Elle vous fait concurrence. Laissez commentaire tout en poésie. La Suisse Claire Renaud, qu'en pensez-vous?
Moi, j'ai trouvé que c'était une bouffée d'air, de beauté, si j'ose dire, que de lire votre poésie puissante et délicate. Je lis la poésie comme une prière et la vôtre l'illustre magnifiquement. Vos poèmes sont une ode à la vie, même pour ces moments difficiles. Et moi, j'invite tout simplement les lecteurs à découvrir vos vers qui mettent en lumière nos émotions sombres et joyeuses.
Merci beaucoup.
C'est un livre incandescent, votre livre Clara Isée, votre recueil de poésie. Il y a une telle violence dans le monde, dans nos quotidiens, qu'il faut trouver une porte pour en sortir. C'est un peu ce que vous nous montrez le chemin justement. L'humain sait si bien détruire les choses, il n'en mesure pas toujours les conséquences d'ailleurs.
Absolument, absolument. Et je crois que dans l'écriture, je crois que, moi en tout cas à titre personnel, je crois que j'écris aussi pour continuer à désirer. Et pour continuer à désirer, j'ai besoin de continuer à croire dans un futur désirable. Et donc j'ai l'impression qu'on est... Par exemple, je pense à ça parce qu'il y a ce texte de Pasolini, tu sais qu'il a écrit vers la fin de sa vie, où il parle de la disparition des Lucioles en Italie du Sud, et il y fait un rapport avec la disparition aussi des propositions artistiques, etc. Et il y a la réponse du coup de Didier Huberman des années après, où il lui, dans La résurgence des Lucioles, où il dit peut-être que Pasolini, à un moment donné, n'a pas réussi à transformer son regard pour voir les nouvelles Lucioles. Et je crois que d'une certaine manière, dans l'écriture, il y a ce mouvement-là, c'est-à-dire de scruter la nuit, symbolique, quoi, même celle qui nous entoure, pour essayer d'habituer notre rétine à cette nuit-là, de surtout ne pas fermer les yeux sur cette nuit-là, mais d'essayer d'approcher les lueurs qu'on pourrait y trouver.
Il y a dans votre poème 78, ils sont numérotés, ces enfants qui s'enferment dans leur chambre pour ne pas entendre. Et il y a cette petite fille qui a grandi, elle écrit des poèmes, et elle dit, vous écrivez en tout cas, et jamais elle n'écrit sur ce qui ne peut être dit.
Oui.
Quelle est l'histoire de cette petite fille, Clara?
Eh ben,
on pense à vous, évidemment.
C'est l'histoire que vous voulez. Je crois que je crois que moi, je crois vraiment très fort que les poèmes, ils nous appartiennent pas et qu'ils existent à partir du moment où ils sont lus et que du coup, vous pouvez y entendre absolument ce que vous voulez y entendre.
Parce que c'est trop intime, peut-être?
Parce que je crois vraiment que ça a pas d'importance, le rapport vraiment autobiographique ou non qu'il peut y avoir dans un texte.
Mais qu'est-ce qui ne peut pas être dit?
Bah, justement, je crois que la poésie, elle se construit sur ce qui ne peut pas être dit.
Dans ce cas-là,
c'est encore une fois, vous répondrez à cette question vous-même.
On peut parler de votre parrain quand même. Vous faites un très bel hommage à votre parrain.
Oui, absolument.
Le parrain aux yeux clairs.
Oui, les parrains aux yeux azur.
Aux yeux azur.
Ouais. C'est vrai que, en fait, c'est drôle parce que c'est des textes vivants. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans ce recueil, c'est que c'est des textes que j'ai écrits de mes 20 à mes 31 ans.
Et oui.
Et ça fait partie de l'écriture de la poésie. Est vraiment quelque chose de qui est comme un rituel pour moi, quelque chose qui m'accompagne, qui m'aide à vivre. Et par rapport justement aux albums, au travail de la musique ou au travail de la composition ou l'écriture d'une chanson, dans lequel je pense que j'ai un rapport qui est assez obsessionnel et où du coup j'ai tendance à revenir plein de fois, avoir du mal à lâcher, etc. Et là, c'est un objet peut-être pour moi un des objets les plus bruts, dans le sens où j'ai très peu retravaillé les textes. J'ai beaucoup élagué, retiré des choses, mais j'ai très peu retravaillé vraiment la matière textuelle. C'est aussi un recueil qui est traversé de des êtres qui m'ont inspiré, qui m'ont émerveillé. Dont ce texte-là.
Le titre de votre livre, Vivante, c'est un cri de résistance, un cri de combat aussi. Quand tout s'effondre, Clara Isée, comment trouve-t-on cette énergie de se maintenir en vie, de rester dans la vie? Parce que c'est le propos de vos poèmes. Rester en vie, même si à l'intérieur de soi, parfois, tout s'éteint ou qu'on a le sentiment de mourir à l'intérieur. Comment fait-on?
Je sais pas, alors là j'ai pas de réponse, sinon je pense que j'arrêterais d'écrire. mais en tout cas, c'est
vous y êtes
sûr
arrivé,
que
vous.
C'est une question que je me pose tous les jours et je pense que pour moi, dans ma trajectoire, la musique et l'écriture, ça a été ma colonne vertébrale pour avancer, ouais, ça c'est sûr. Et après, je pense que dans le texte, il y a aussi la métaphore du phénix qui revient et il y a cette idée que je trouve magnifique vraiment que quand on écrit, il y a à un moment donné quelque chose qui doit mourir en soi pour laisser advenir quelque chose d'autre, et que du coup la métaphore du phénix qui est cette espèce de renaissance et de mourir à soi et de renaître plusieurs fois d'affilée est quelque chose que je trouve très juste.
Bon, la musique vous a beaucoup aidé, elle aide beaucoup de monde, il y a une dimension collective dans la musique, on fédère et parfois, sans même le savoir, on aide les autres. Merci Clara Isée.
Merci.
Vous allez vous installer car vous avez un petit cadeau pour nous. Vivante est parue aux éditions Segers, votre guitare est juste derrière
Merci.
Vous. Je vous laisse vous installer dans l'autre coin de notre studio pour jouer un titre en acoustique. Vous serez en France à la librairie Les Traversées le 20 juin, mais aussi en concert le 13 juin au Sceaux Jazz Festival, le 22 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon, le 21 juillet au Francofolie de Spa en Belgique, le 5 septembre au Francofolie de La Réunion et le 25 mars 2025 à l'Olympia de Paris, entre autres. Dans un instant, l'écrivain suisse Julien Bury qui raconte à sa manière la rupture amoureuse. En attendant, on va écouter Clara Isée qui est installée sous une lumière rouge avec une guitare en main et un pull en cachemire gris. Vous êtes magnifique. Vous êtes prête, Clara?
Je suis prête.
Allons-y. Clara Isée avec Douce dans la librairie francophone.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me court, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Tu penses que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui qui coule dans mes veines. Tu aurais peur si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu aurais peur si tu savais la haine qui coule dans mes veines. Tu aurais peur si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu sais, la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si les mesures nous fatiguent, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes, tu aurais peur si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu aurais peur si tu savais la haine qui coule dans mes veines. Tu aurais peur si tu savais la peine que je cache à l'intérieur.
Clara Isé, que j'applaudis dans le studio de la librairie francophone. Merci. Avec Douce. Merci beaucoup Clara. Venez nous rejoindre en plateau, bien sûr. Je remercie au passage tous les artistes qui ont joué ici pour nous avec une incroyable générosité. Comme vous aujourd'hui Clara, toutes ces prestations resteront en nous. On a vécu des moments magnifiques grâce à la confiance de tous ces artistes, de leur entourage aussi, qui nous ont toujours dit oui. Merci à eux. Merci Clara.
Merci, vous
êtes une très grande artiste Clara.
Merci beaucoup.
J'espère qu'on va vous entendre longtemps, longtemps.
Merci,
merci beaucoup.
Infiniment.
La chronique de nos libraires. Première partie avec un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud, sans transition.
Un énorme coup de gueule, Emmanuel,
voilà,
contre la suppression de cette émission.
Ah.
Vous avez toujours soutenu les libraires indépendants, rappelé constamment à nos auditeurs qu'il fallait acheter les livres dans les librairies indépendantes. Pendant le confinement, vous avez continué à nous donner la parole, malgré les problèmes techniques, vu que personne n'était en studio. En supprimant cette émission, c'est notre parole à nous, libraires indépendants, qu'on nous enlève. Et en signe de contestation, j'aimerais me taire 20 secondes.
Alors, je ne m'attendais pas à ça. 20 secondes, ça ne va pas être possible parce que
non.
On ne va pas laisser un blanc de 20 secondes. Et moi, je ne peux pas m'exprimer parce qu'on me l'interdit. Disons les choses, je parlerai bientôt. Écoutez, c'est très difficile, on va pas se mentir, on va se dire les choses, voilà, c'est très très compliqué en ce moment. Merci pour ce soutien, Claire, je remercie au passage tous ceux qui nous soutiennent, ils sont très très nombreux à travers le monde, de nombreuses personnalités, merci à tous, voilà, j'en profite au passage, j'espère que j'ai le droit au moins de dire ça. Voilà, on va laisser passer ces 20 secondes, je pense que c'est bon, elles sont passées, Claire, j'ai meublé pour vous, comme on dit.
Merci.
Un coup de cœur en France, Sophie Todescato.
Oui, on a bien besoin de motifs de réjouissance, Emmanuel. Alors, dans l'avalanche des parutions inspirées par les prochains Jeux Olympiques, j'ai trouvé un album réjouissant qui donne enfin une occasion d'en rire. Ça s'appelle Les Jeux Folympiques. Le titre annonce la couleur. Et on découvrira des Olympiades complètement fofolles, qu'il s'agisse par exemple du nom de son fondateur, le pas très célèbre Pierre le Courbattu, ou bien des preuves assez improbables, par exemple l'Environ. Un livre très drôle, médaille d'or de la rigolade. C'est à partir de 6 ans et jusqu'à pas d'âge. Et
bien.
C'est paru au Seuil Jeunesse.
Bien. La liaison fait grève aussi en mesure de contestation.
Ah, je...
Désolé hein, pour cette liaison très très difficile avec vous aujourd'hui, Sophie. Les Jeux Folles Olympiques donc, hein, aux éditions Seuil Jeunesse. Merci Sophie, voici Julien Burry.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici à Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Julien Burry.
Bonjour.
Vous êtes un écrivain suisse dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans la librairie francophone. Depuis l'âge de 17 ans, vous écrivez vous aussi de la poésie comme Clara Isé tout à l'heure. Et dans votre nouveau roman, La double nuit du lac, on retrouve cette verve poétique. On est en Suisse, au bord d'un lac, sans doute dans le canton de Vaud, peut-être le lac de Bray.
Vous êtes bien renseigné, vous connaissez le terrain.
Déjà je connais le terrain, puis je me renseigne, journaliste oblige. Vous pouvez nous décrire ce lieu ?
C'est un petit lac qui passe un peu inaperçu à côté du Léman.
Oui.
Le Léman, c'est quand même un...
Oui, qui écrase tout.
C'est presque trop beau, c'est très intimidant. C'est un petit lac qu'on peut traverser à la nage, parce que moi, j'ai pas l'endurance pour traverser le Léman. Et ce livre est né d'une traversée, aller-retour, de ce petit lac, qui est très beau, mais il y a quand même une route qui passe tout près, donc il est pas non plus trop romantique. Il y a une sorte de mélange entre modernité et nature...
Alors c'est effectivement le récit d'un narrateur qui raconte la fin d'une histoire d'amour. Il nage dans le lac et il évoque cette métaphore de passer sur l'autre rive. Mais il garde en mémoire les souvenirs avec cet amoureux. Il est à la lisière de sa vie, on peut dire, à la lisière de ses sentiments. Que s'est-il passé pour lui ?
Alors pour le nageur n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire. Il a simplement une sorte d'euphorie, un plaisir d'avoir, de sentir l'eau, de s'immerger dans l'eau. Et il a tout à coup envie de traverser, d'aller voir en face. Et puis il va créer une sorte de pli dans le temps, une sorte de reflet, de symétrie. Et quand il revient sur la première rive, eh bien, il n'y a plus personne.
Mais vous jouez avec la temporalité comme ça, Julien Bury, avec un récit poétique, on ne sait pas toujours où on se trouve, vous forcez le lecteur à interpréter parce qu'il y a des ombres aussi. Alors lui, il sent une ombre le suivre, et il y a une autre ombre, celle d'un homme disparu, un autre amant qui a disparu, l'amant de son compagnon, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Qui du jour au lendemain
et
n'a plus donné signe de vie.
C'est ça, a quitté la maison.
Oui.
Oui, le temps, c'est un thème incroyable. J'avais envie d'un livre liquide comme un lac. Et vous savez, dans le lac, il y a toutes ces petites vagues. Et j'avais cette idée que si on pouvait les faire défiler en arrière, eh bien, on retrouvait les nageurs, les bateaux, tout ce qui est arrivé est en mémoire.
Et la vase aussi.
Oui, et c'est assez inquiétant. Hein, le fond du lac, la nuit, l'obscur. L'autre rive aussi, c'est un peu l'au-delà.
Oui, oui. Vous avez nagé comme ça dans un lac, vous ?
Oui.
La nuit ?
La nuit aussi.
Ah oui ?
Oui, oui, c'était pas ce lac-là, mais c'est une expérience.
Vous êtes inquiétant, hein, Julien Bury. Vous êtes très inquiétant. Il y a le poids de la solitude, en tout cas, dans votre récit. Quand on est comme ça dans une rupture, pour toutes sortes de ruptures d'ailleurs, la solitude est ce que l'on redoute le plus, le grand vide. Vous écrivez « La solitude est une eau profonde ».
Moi, je trouve que c'est une chance aussi, parce que dans cette solitude vont pouvoir résonner beaucoup de choses. C'est une solitude habitée. Je pense qu'on a une image toujours douloureuse et lourde de la solitude, alors qu'on peut être en pensée avec les autres qui nous ont précédés, avec les autres vivants, avec la nature, et qu'il y a là quelque chose d'une écoute, d'une porosité.
Oui, mais c'est pas pareil.
On fuit la solitude tout le temps.
Oui.
On est sur notre téléphone intelligent. Oui, oui. On essaie toujours de se divertir. Je pense qu'il y a une chance à la solitude.
Mais rien n'est pareil quand on est seul. Par exemple, quand on sait que c'est la fin de quelque chose, c'est le cas pour votre personnage, il semble que l'on ne puisse plus vivre le moment présent dans la même sérénité.
Moi, je pense que ce moment présent, alors il peut y avoir des inquiétudes, mais il résonne de tout ce qu'il y a eu aussi.
Ah oui.
Comme la maison des personnages résonne, les anciennes présences. Je pense que c'est pas un livre plombé. Enfin, je ne sais pas quelle est votre impression.
Ah non,
j'ai
pas
de
dit ça. Oui. Non, non, c'est très vaporeux. C'est très liquide, comme vous dites.
Oui, j'aime beaucoup le.
On a
le
du
flou.
Mal à se raccrocher au réel.
En même temps, il y a des objets assez concrets.
Oui. Et une chanson notamment. Un disque que votre personnage aime écouter. Ah. Un disque à la pochette argentée. Alors, j'ai vérifié parce que j'avais bien une idée. Mais une chanson de Daniel Balavoine que l'on imagine être tous les cris, les SOS. Il faut savoir que c'est la face B de l'Aziza. Et je me suis dit, ça ne peut pas être l'Aziza, le titre que vous citez sans le citer, ça ne peut être que « Tous les cris, les SOS ». Ça correspond parfaitement à votre récit.
Oui, je suis très touché que vous ayez passé cette chanson.
C'est celle-ci alors ?
C'est celle-ci, c'était mon premier disque.
C'est vrai ?
Oui.
45 tours.
C'est ça.
De Balavoine.
J'avais
qu'on voyait à moitié.
Oui, tout à fait.
La pochette était coupée en deux avec
Exactement.
Un côté argenté
oui.
et la moitié du visage de Balavoine.
Vous l'avez aussi ou vous l'aviez aussi ?
Je l'avais, oui.
Moi, je l'ai toujours.
C'est un souvenir d'enfance, cette chanson pour lui. Il ressent le besoin de lancer un SOS, votre personnage, Julien Bury ?
Alors, c'est vrai qu'il y a, dans ce temps épais qui se déplie, il y a des souvenirs d'enfance qui viennent résonner avec le présent. Peut-être le souvenir d'autres vies qui ne sont pas la sienne aussi. Et alors là, tous ces souvenirs, toute cette matière-là, c'est toujours du vécu pour moi. Mmh. Hein, c'était mon premier disque, oui, quand le chanteur est décédé, je me souviens de mon père qui me l'annonce le matin. Et je n'ai plus osé écouter ce disque pendant des décennies. C'est récemment que je l'ai réécouté. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose lié à la mort, à la nuit, au sable.
Donc le lac, c'est vrai. C'est le lac que vous avez fréquenté. La musique, c'est vrai. Oui. L'amoureux.
Ben, oui, parce que pour moi, j'ai besoin de nourrir le roman, de le doubler de vérité. Le travail après romanesque, c'est le montage, le point de vue, c'est de dilater le temps. Là, il y a le travail du romancier.
Bon, on va laisser la parole à nos libraires, voir s'ils ont apprécié le travail du romancier Julien Bury avec le Canada et la Belgique. Déborah Damblon en Belgique, c'est à vous.
Oh là là, vous m'avez surprise, mais vraiment, vraiment. Vous m'avez emmené là où je pensais pas pouvoir aller parce que vous m'avez permis de trouver du beau dans une séparation. Alors comme quoi, bah, quand on a les mots justes, la belle langue, les sentiments, mais que vous arrivez à ciseler, mais avec tellement de maîtrise, bah, c'est de la littérature, quoi. Alors ça nous montre le chemin, ça nous aide à appréhender les émotions, aussi intense qu'elle soit, et vous avez cette force de nous mettre, mais juste comme ça, à une place où on ne peut que prendre la mesure que la vie, ben, elle continue, hein, envers et contre tout.
Oui, Julien,
vous l'avez dit. Moi, je suis très touché, merci beaucoup. Mais que la vie continue et qu'elle est belle, que cette solitude aussi est belle.
Le Canada, Josiane Letourneau, êtes-vous d'accord?
Oui, mais en fait, je dois te dire que pour moi, ça a été une lecture déstabilisante, mais je vous rassure, dans le bon sens. On est à la fois dans cette nature concrète, palpable, qui nous est décrite dans ces menus détails, mais sous lequel, moi, j'ai senti un mouvement, un danger imminent, quelque chose qui m'échappait. Et je pense que c'est un livre dans lequel il faut avoir un certain abandon, sinon la rationalité s'oppose au plaisir, à la poésie, à la danse, à la richesse de l'écriture, et je sais très bien que quand je vais relire ce livre-là, ben, les mots vont me dévoiler un trésor nouveau.
Merci beaucoup.
Vous racontez une distance qui s'installe entre ces deux amoureux qui ont surmonté le regard des autres aussi dans cette campagne. Ils n'arrivent pas à se retrouver, comme si le chemin du retour vers l'autre était impossible. Mais votre narrateur dit qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance au retour.
Bon, le retour, là, c'est des retours d'ombre, hein, comme vous le dites. Ou le retour, c'est aussi l'écriture, c'est faire retour, écrire, lire aussi. Et peut-être que les lecteurs ont en tête leur propre rupture ou séparation, ou les propres peurs qu'on a de vivre telle chose.
De vivre le vide aussi.
C'est ça. C'est le vide nous donne un écho, il y a un retour. Ce livre est construit sur ces retours.
Mais dans ces ruptures, on se pose toujours cette question, et si on se trompait? Si on n'avait pas fait tout ce qu'il faut pour sauver sa relation? Ça tourne un peu autour de ces questions, ce récit-là.
En même temps, on ne peut pas contrôler. Là, on n'est pas romancier, pour le coup. On ne peut pas faire le montage, choisir...
On ne peut pas contrôler, vous pensez?
Non, pense qu'on est fait par ces histoires.
C'est un constat, c'est jamais une décision, une rupture?
Ah ben, on peut choisir de se protéger, de mettre un terme à quelque chose. Là, en l'occurrence, le narrateur n'a pas choisi cette rupture, mais il choisit de la vivre d'une certaine manière. Donc, bon, après, je vous parle aussi avec des années, et puis il y a eu ce livre. Donc,
Vous vous êtes remis, c'est ça?
Ben, j'en ai fait quelque chose. Oui. Ça m'a permis d'aller toucher quelque chose en moi et dans l'écriture.
Votre intérieur, comme disait Clara Isée.
Oui, je suis reconnaissant de ça. C'est un cadeau, en fait, que l'autre a fait aussi.
Vous vous êtes senti aussi un peu mourir à l'intérieur de vous, tout en étant en vie?
Bon, je pense que dans les premiers temps, c'est un peu un sentiment... qu'on ressent tous en rupture, quelque chose qui meurt. Mais comme la surface de ce lac, rien ne meurt vraiment. Il y a, d'autres choses qui vont venir se développer. Mais s'écrire.
On va pas tout raconter. L'écriture, c'est une compensation? Un réconfort? Comment vous définiriez cette écriture-là?
Alors, il y a une idée de mettre de l'ordre, de composer quelque chose, une mélodie, avec un chaos. Oui, peut-être de transformer cette vase dont vous parliez en quelque chose d'intrigant, d'intéressant.
Bon, merci beaucoup Julien Bury.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez séduit nos libraires. Félicitations. La double nuit du lac est parue aux éditions La Veilleuse. Je vous souhaite le meilleur pour la suite Julien. Et on a été ravis d'accompagner un bout de votre chemin d'écrivain toutes ces années passées.
C'est moi, merci
dans la librairie
beaucoup.
Francophone. Voilà, vous faites partie de ces auteurs dont on se souviendra. Merci à vous.
Merci à vous.
Dans quelques minutes, un entretien reportage dans une érablière avec Fanny Britt pour un livre de poche. Avant cela, on vous offre un magnifique titre d'Ismaël Lô. Écoutez bien, c'est dans la librairie francophone, bien sûr.
Waye boom go top no more. Bula nehe talala say loho. Yay doctor bi pachki fuas can be. Likadale singi tumre bachi miskin. Ya zume ko du dance dole. Andak nak bi di ligue. Ta ñakadi tour ngay bay di dugat billahi ya am jom kun jara ma bay kat ku fi xir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akire na musu kun jara ma bay kat ku fi xir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akire na musu. Ya mom monu sambay ya mom sa ganchakh mom sey ñor ya mom sa alla di bay ngur ñaw dugal ci loxom ak bor fek la ca ganchakh ba meñ lo nekete yo kon jara ma bay kat ku fi xir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akire ba musu kun jara ma bay kat ku fi xir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akire ba musu.
Ismaël Lô avec Baykat.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici à Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
On vous emmène à présent au Canada, dans un lieu symbolique pour notre invité. Fanny Britt a publié « Faire les sucres » en 2021 aux éditions québécoises Cheval d'août. Il vient de sortir en poche chez J'ai lu dans tous les pays francophones. Voici un entretien-reportage avec Fanny Britt, donc inédit dans la librairie francophone.
Mes racines sont françaises, pourtant je suis québécois. Un petit peu de sang irlandais, peut-être même iroquois. Les saveurs des cultures, partage-le-moi. Si je pouvais, j'aimerais tout le monde à la fois. J'aimerais, c'est trop bon, un speech du sixième étage. Quand y'en a pour tout le monde, ça fait jamais mal. J'ai été élevé au crêpe, sirop d'érable. Paul Breton. par les vaches. Rêve sur au dérap.
Rêve sur au dérap. Rêve sur au dérap.
Sur au dérap.
Voilà, nous sommes à 30 minutes de Montréal environ, dans les basses Laurentides, dans une érablière. Autour de nous, plein d'arbres évidemment, de la neige, de la poudreuse, de la belle poudreuse, avec une belle épaisseur, plein de cabanes en bois, avec une maison aux fenêtres violettes, et puis une petite cabane là, verte, vitrée. Bonjour Fanny Britt.
Bonjour.
Le sirop d'érable, c'est dans l'ADN de tous les Québécois et de tout le Canada.
Oui, en fait, moi j'avais envie de m'amuser avec cette idée-là justement que le sirop d'érable est dans notre ADN. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi un symbole qui est intéressant à attaquer aussi d'une certaine manière.
Alors, on va voir ça avec vous. Où on est exactement, la Fanny? Parce qu'on est venu à votre rencontre. C'est vous qui avez choisi cet endroit. Et il est beaucoup question, évidemment, des sucres, du sirop d'érable, des érablières dans votre roman. Mais là, où sommes-nous, là?
Alors, on est ici à Saint-Joseph-du-Lac, dans un endroit qui s'appelle la Cabane sur le Roc. Et en fait, c'est l'endroit qui a fait toute mon éducation. De l'érablière, de l'érable, parce que ma cousine Gabrielle est nouvellement sucrière depuis quelques années.
Ah oui?
Oui, elle a décidé de se construire carrément une cabane qu'on voit au loin ici,
ah oui.
Avec l'aide de son père, évidemment, de son mari, de toute la famille, et d'exploiter les érables qui étaient sur cette terre et qui étaient vierges d'ailleurs. Et ça, c'est assez rare au Québec qu'on commence une nouvelle érablière. Donc, ces érables-là n'avaient jamais été exploités avant que Gabriel bâtisse sa cabane. Et moi, ça a été tout mon apprentissage de ce qu'Adam, mon personnage de apprenti sucrier, allait vivre. C'est Gabriel qui me l'a enseigné.
Vers les sucres parus au cheval d'août nous emmène au milieu des érables. Dans une production locale, on va raconter ici même le processus de fabrication d'ailleurs. Et vous dites dans votre livre que l'érable produit un sucre tellement plus complexe et plus profond que le sucre blanc. Et moi j'ai envie de vous dire, ça n'a absolument rien à voir. L'érable est magnifique, l'érable a du goût, l'érable a une saveur, a un bouquet. Le sucre blanc, bon, ça sucre.
Ben voilà, vous avez tout dit. Ben oui, moi, je suis sûre que quelqu'un pourrait écrire des à la canne à sucre, mais c'est complètement un autre processus. Et surtout, le processus de l'érable, c'est celui qui ressemble tellement à la manière dont nous, on vit avec les saisons ici, qu'on peut comme pas s'en dissocier. Mais c'est vrai que pour moi, l'érable a comme... D'abord, il y a des variations dans les teintes, dans les goûts. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de seulement faire réduire une eau et qu'il en sorte quelque chose d'aussi riche. Moi, je trouve ça... Partir d'un matériau si simple, en fait.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on arrive en haut de la butte, là. Donc, on a un chemin qui va vers les érables à perte de vue. Hein. C'est vrai que ça fait comme un rideau, parce qu'ils sont les uns contre les autres. On n'arrive pas à voir l'horizon, on n'arrive pas à voir plus loin, tant il y a d'arbres autour de nous. Alors, il y a cette cabane avec l'encadrement des fenêtres rouges. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici.
Mais ça fait plaisir.
Vous allez nous expliquer alors comment on fait pour extraire de l'eau d'érable, puisque dans l'histoire de Fanny Britt, il est question évidemment d'extraire l'eau d'érable dans l'érablière que Adam va acheter, un peu comme celle où nous sommes, hein. Je suppose que vous êtes inspiré.
D'ailleurs, dans le livre, ça se passe à Oka. Oka, c'est le village voisin d'ici, et c'est à peu près ça. Je me semble que c'était 1000 en terre qu'Adam exploitait. 500 à 1000, je me souviens plus. Mais une petite érablière. Ça, c'est une petite érablière. Hein?
La topographie là dans le livre, tu sais, la manière qu'il a décrit l'érablière, qu'il a décrit la cabane à sucre, ça le rejoint un petit peu qu'est-ce qu'on a ici.
Je me suis vraiment inspirée des lieux ici, ouais, complètement.
Alors, comment fait-on, Gabriel? Comment ça se passe pour extraire l'eau d'érable?
Ben d'abord, ça vient d'un arbre. L'eau d'érable sort de l'arbre qui s'appelle l'érable. Ça arrive au printemps. Nous, ici, on est sur tubulure, comme on dit. Donc, c'est des petits tubes de plastique qui parcourent l'érablière, qui vont rejoindre chaque érable. On fait un trou dans chaque érable où est-ce qu'on enfonce notre... on appelle ça un chalumeau.
Alors, il est où le trou? Parce que c'est vrai qu'on voit des fils.
Oui,
en fait, sont des tuyaux.
Il y a des petits tuyaux.
On va ressortir.
Il y a un gros tuyau.
Alors, effectivement, il y a des gros tuyaux bleus.
Oui. Donc, on peut comparer là à... ça serait l'artère principale, puis ça serait les veines.
Ah, d'accord.
Si on compare ça à un réseau sanguin, là. Puis l'eau d'érable va s'accumuler dans le tuyau et va descendre par gravité ou avec la force d'une pompe. Puis après, ben, l'eau d'érable arrive à la cabane à sucre où est-ce qu'on la bouille pour évaporer l'eau et faire le sirop d'érable.
Très bien, alors c'est très clair.
C'est très clair.
C'est très clair. Et le procédé, en fait, nécessite le respect pour l'arbre. Et ça, Fanny en parle dans son livre. Il faut respecter l'arbre, car en extrayant l'eau, les sucs, on blesse l'arbre.
Oui, c'est une blessure qu'on fait dans l'arbre. C'est vrai que c'est bien expliqué dans le livre. Il y a aussi
montrez-moi
la manière de faire le trou. Bon, on peut prendre lui, peut-être.
Oui, hop. On tourne autour de l'arbre, hein,
on
là, je vous explique.
On tourne autour de l'arbre, c'est comme une espèce de danse qu'on
fait. Et ça glisse pas du tout avec la neige.
faut sentir l'érable, ouais. faut le filer.
Bon, ah oui, ça, c'est tout petit.
Ça, c'est l'année passée.
C'est minuscule.
Oui, ben, oui, c'est minuscule. Il faut que ça soit minuscule aussi. Puis, dépendant du diamètre de l'arbre, on peut mettre une ou deux entailles.
D'accord.
Mais pour avoir deux entailles, il faut quand même un arbre d'une certaine envergure. Là. Ici, dans la forêt que j'ai, c'est assez jeune, entre guillemets. J'ai pas beaucoup d'arbres centenaires, donc c'est plutôt des 1 entaille que j'ai.
D'accord. Et alors, comme le dit Fanny, quand on a entaillé l'arbre ici, on va l'entailler ailleurs la saison prochaine.
Oui, l'année suivante, on va l'entailler ailleurs. Mais en général, on va faire, si on fait le trou ici, on va le faire un petit peu plus haut.
D'accord.
Puis un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Puis l'année suivante, en bas, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis ensuite, on va changer.
On tourne. Oui, c'est ça. Et alors, comment on fait le trou? Avec une perceuse?
Avec une perceuse, oui. À l'époque, c'était le vilebrequin, là, si je ne me trompe pas. Là. Ça prenait un petit peu plus d'huile de coude. Maintenant, une bonne perceuse avec une bonne mèche,
d'accord,
ça le fait. Un trou un petit peu en angle pour que ça descende. Pas trop profond. Il y a une profondeur à respecter. Quand ça sort, c'est le sirop d'érable.
Et alors, on fait bouillir combien de temps?
Ça peut prendre... Au début, ça prend à peu près 4 heures, 5 heures.
En fait, plus on fait bouillir, et plus il est foncé, c'est ça?
Oui et non. C'est plus complexe que ça.
Le sirop d'érable clair, le médium?
Oui, ça va dépendre du moment dans la saison où est-ce qu'on bouille. Ça va dépendre des minéraux qu'il y a dans le sirop d'érable. Ça va dépendre du taux de sucre qu'il y a dans l'eau d'érable au départ. Ça va dépendre de la performance de l'évaporateur. Ici, c'est un évaporateur au bois, mais assez moderne. Donc, on réussit à sortir un sirop assez rapidement. Mais il y a des vieux évaporateurs au bois, par exemple, qui perdent la chaleur. Mais le sirop va bouillonner longtemps avant de finir en sirop. Donc, il va développer sa saveur, développer son goût. Il va être peut-être un peu plus foncé. Il y a plein de petits facteurs. C'est de l'agriculture, mais en même temps, il y a un côté vraiment science dans le sirop d'érable. Là. Mais c'est un apprentissage. Mmh. Comme Fanny disait, puis il y a de la nature là-dedans aussi qui...
Oui, qui joue beaucoup.
Décide. Par exemple, l'année passée, on avait beaucoup d'eau, mais très peu sucrée. Donc, au final, moins de rendement au bout de la ligne. C'est pas nous qui décident.
Parce que ça s'évapore.
Oui.
C'est ça. Quel rapport vous avez avec le sucre, vous, Fanny Britt?
Moi, c'est...
Ça fait rire Gabriel.
Non, j'ai un rapport de junkie.
Carrément.
Carrément. Depuis toute petite. D'ailleurs, c'est ça, Gabriel est pâtissière de formation, donc c'est ma carrière de rêve. C'est ma vocation ratée.
J'aurais aimé faire ça dans la vie.
Oui, mais je suis trop couche-tôt. Je suis pas capable. J'aurais pas été capable de gérer la vie dans un restaurant, moi. Gabriel a travaillé au pied de cochon, à la cabane à sucre du pied de cochon. Donc, c'est des endroits un peu pantagruéliques, excessifs, extraordinaires. Mais moi, j'aurais jamais pu m'adapter à ça dans ma personnalité introvertie, mon besoin de solitude et le fait que je me couche tôt le soir. J'aurais pu être boulangère, peut-être. Là, on se lève super tôt. Puis j'ai eu la chance après de pouvoir partir quelque chose par moi-même, de réaliser un petit rêve.
Oui, comme dans le livre, hein, finalement, avec Adam, même si lui, il a beaucoup de moyens, c'est facile pour lui.
Ah, oui, mais en fait,
c'est sans doute plus facile que ça l'a été pour Gabriel.
Oui, mais puis en fait, Gabriel, c'est un vrai processus professionnel, une vraie réflexion aussi sur ce qu'elle voulait faire, et c'est une vraie entreprise familiale. Finalement, ça peut avoir... C'est comme si Adam était un de ses chefs, un hybride là, de ses chefs très médiatisés. C'est des gens que j'admire, mais qui m'amusent aussi, parce que des fois, on sent que c'est comme une espèce d'ambition dévorante d'être partout, d'être de toutes les tribunes, de tout faire, de
Et c'est la croissance infinie aussi. Moi, je vois là-dedans un reflet du capitalisme qui est assez évocateur, en tout cas, de ce que...
Ces gens-là deviennent des stars, tu sais. Oui. Moi, je l'ai vu un peu de proche, mais tu deviens comme une star médiatique, alors que tout ce que tu fais dans la vie, au final, c'est de la nourriture. C'est au bout de ta journée, là, tu sais, on se dit, mais on fait toujours bien juste de la bouffe, Colin, tu sais. Arrêtons de monter ça. Hein. Il y a des gens qui font des choses autrement plus intéressantes dans la vie que nous, ou plus glorifiantes, là. Ça me fait décrocher à un certain point, tu sais. Ça m'a donné le goût vraiment, puis peut-être comme Adam, mais peu importe. Mais
retour à la terre.
De retourner vers quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste.
Faire les sucres de Fanny Britt aux éditions Le Cheval Doux. Merci beaucoup, Gabrielle.
Ben, merci à vous.
Merci revenez pour cet sucre. Accueil magnifique. Restez comme ça. Merci, Fanny Britt.
Merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir.
À très bientôt. Lisez ce livre, donc Faire les sucres de Fanny Britt. À bientôt. Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le roman de Fanny Britt, Faire les sucres, est paru donc en poche chez J'ai lu. La chronique des libraires, seconde partie, un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, Emmanuel, parce que depuis 25 ans, le prix Farniente, il a fait lire des milliers d'adolescents. C'était un prix qui était joyeux, qui était enthousiasmant, qui était bon enfant, ouais. Qui était de très très grande qualité. Et là, faute de subventions institutionnelles et de la décision de certains, ben, il doit jeter l'éponge. Oh. Alors c'est encore une très très mauvaise décision de nos instances dans le soutien à la promotion de la lecture. C'est quand même dingue, hein, de supprimer des choses qui sont pleines de sens et qui fonctionnent, non? Enfin, moi je trouve. Et puis après, on se plaint que les jeunes ils lisent pas, enfin que les gens ils lisent pas.
C'est vrai. Bon, on salue toute l'équipe du prix Farniente, évidemment, et ceux qui en ont bénéficié. Merci Déborah, un coup de cœur en Belgique, j'allais dire, non, en Québec, pardon, je suis perturbée. Josiane Letourneau, c'est à vous.
Oui, je suis pas mal d'actualité, moi aussi, avec mon coup de cœur aujourd'hui, avec le titre « Texté, publié, scrollé » de Emmanuel Parent chez Éco-Société. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux adolescents pour les faire réfléchir sur l'utilisation des médias sociaux, d'en faire une meilleure utilisation, une utilisation plus saine, et leur donner des conseils. En fait, je pense que même les adultes, les parents, les professeurs peuvent y jeter un coup d'œil et vont y trouver leur compte. C'est dans une collection qui s'appelle « Radar ». Oui. Je trouve que, en fait, les adolescents, au niveau des essais, sont un peu laissés pour compte dans de l'édition. Ouais. Et Éco-Société s'occupe de ça avec cette collection-là. Je vous invite à jeter un coup d'œil à leur titre. C'est vraiment intéressant.
Très bonne maison d'édition, Éco-Société. Texté, publié, scrollé aux éditions, donc, Éco-Société. Voilà. Merci beaucoup, Josiane.
Merci.
Pour conclure, le son de l'outre-mer avec l'artiste réunionnais Kaf Malbar.
Avec les mises en démirante la semaine prochaine. Mi vive d'amour et de fraîche avec son pote, y a pas de problème. Comme il déboule ensemble, lycée, réel phénomène. Dans le confort, il met à moins bien et ses amis. Il donne à lui ses clés de main, boum boum boum, et sans clé à temps. Physique, physical, love, physical. Comment te fier, maman? Il répond à la demande, il fait pas pris à temps. Physique, physical, love, physical. Moi pas rassasié, moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. Moi pas rassasié, moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. My darling, chérie, pour calmer, moi dans le remède. Mon anniversaire, nous ça va Club Med. Mille et un petit souhait quand il refait mon bandred. Moi capable vivre vie comme ça jusqu'à comme il dead. Moi pas rassasié, moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez, non. Moi pas rassasié, moi pas rassasié, non. Moi pas rassasié, toute ta vie comme ma sera jamais assez. Mon pantalon, il dit que moi la sensé. Tous les hommes, il déclinent ma pour offrir. Tous les
Mon pantalon il dit que moi la sensé. Tous les jours il décline ma bourreau. Tous les jours il n'a. Moi pas rassasié. Moi pas rassasié non. Moi pas rassasié. Toute ta vie comme ma sera jamais assez non.
Un extrait de Parassasié de l'artiste réunionnais Kaf Malbar.
Infotrafic RTS.
Avec Carrosserie Suisse, vos experts pour réparer les carrosseries et pare-brises. Carrosseriesuisse.ch.
Et aucune perturbation n'est à signaler sur le réseau routier.
C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, Stéphane Combe, avec Adèle Caglar et Lison Berger à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère avec Constance Gonin et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Un grand merci pour votre fidélité indéfectible. Grand merci à vous tous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne semaine, bon week-end.
La première vous offre l'heure.
Il est 18h sur la première. Voici Forum.